Mais, oui, mais absolument. Si tu veux, voilà, donc c'est pour ça que bon nombre
ils ne séduisent pas par le produit.
Bon, oui, mais aujourd'hui l'enfant, on sait, est vecteur d'achat. Donc, quand tu cibles les enfants, tu te dis, je vais en faire des acheteurs plus tard aussi. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui et des marques, tu le sais aussi bien que moi, qui ciblent vraiment les enfants.
Exclusivement,
pour en faire des consommateurs.
D'ailleurs, c'est les grandes marques de façon.
Alors les tenir à l'écart peut-être d'un certain nombre de lieux, non, mais peut-être c'est aussi les préserver de la consommation.
Non,
du monde de la consommation.
Je sais pas, je pense que nous on accueille nos enfants, mon fils,
il peut être tranquille, tu peux aussi dîner tranquille, effectivement, sans avoir autour de toi la marmaille.
Mon fils, il sortait à peine de la maternité, qu'on était déjà au restaurant en train de manger dans un restaurant.
Mais les mariages mariage sans enfants, c'est même assez paradoxal, puisque a priori le mariage
des enfants
derrière, c'est quand même pour fonder une famille en général. Donc le mariage sans enfants, ça me semble complètement dingo. Mais enfin bon, les gens qui ont l'idée de se dire alors
et en plus, c'est eux qui s'amusent le enfants. Plus.
Et les égoïstes.
Ouais. Oui. Regarde, c'est eux qui s'amusent.
Non, mais je
Aurélie,
supporte
bonjour.
Plus, on supporte plus rien en fait.
Aurélie, bonjour.
Con.
Bienvenue Aurélie. Aurélie.
Et c'est sans Aurélie.
Aurélie. Alors,
vous m'entendez?
On vous entend. Mais attention, peut-être que si vous avez la radio ou la télé allumée à côté de vous, ça fait un écho.
Tout est éteint.
Parfait.
Même les enfants.
Aurélie, est-ce que vous trouvez
ça... Oui, les enfants aussi, j'en ai pas. Du coup, c'est pratique.
Alors, justement, vous avez 40 ans. Vous ne trouvez pas... Vous trouvez que ce n'est pas discriminant, les établissements sans enfants. Pourquoi?
Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez.
Il n'y a pas assez de quoi?
Il n'y a pas assez d'établissements sans enfants.
Ah, d'accord.
Pourquoi?
Parce que moi, je vais pas. J'apprécie d'être tranquille, d'aller dîner, d'aller à l'hôtel sans les enfants des autres qui crient, qui braillent, qui voilà. Même quand ils sont sages. Enfin voilà, moi j'aime bien.
Quand ils sont sages.
Oui.
Vous n'aimez pas les enfants, quoi.
Oui, c'est ça.
Alors c'est pas trop ma tasse de thé, c'est vrai. Mais encore moins depuis qu'ils se comportent n'importe comment, quoi. En fait, c'est sans arrêt des cris, des crises. Quand on veut dîner avec mon mari tranquille, il y en a toujours un pour râler, pour pleurer, pour crier. C'est pas agréable,
parce
en fait.
Parce qu'il faut s'occuper d'eux. Moi, quand je m'occupe d'eux.
Ah oui, mais moi, je suis pas leur mère, en fait. J'ai pas envie de subir ça quand on a fait la journée de travail, etc., qu'on a envie d'aller dîner tranquillement, etc., et qu'on se retrouve avec une table où il y a 8 gosses, que ça braille dans tous les sens et ça se jette des frites.
Des familles avec 8 gosses, il y en a eu beaucoup.
Allez, Aurélie,
des fois, c'est des
amis entre eux.
Attendez, Aurélie, je voudrais vous poser une question.
Oui.
Dans les mariages, en principe, il y a toujours une table spécialement pour les enfants.
Avec une nounou.
Est-ce que vous êtes aussi contre, dans les mariages, que les personnes en dessous de 15 ans ne viennent pas?
Alors, pour moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur mariage. Moi, ma sœur, elle s'est mariée, la table pour enfants, c'était 32 enfants. Voilà.
C'était un cauchemar.
Ça n'était pas mon mariage et j'étais loin de la table enfants. Moi, pour mon mariage, j'avais 2 enfants. Mais parce que c'était fortuit et parce que on avait une distance certaine qui a fait que mes amis sont venus sans leurs enfants. Voilà. Moi, j'ai pas exclu les enfants de mon mariage, par contre. Non.
Par contre, tout le monde avait compris.
Mais j'avoue que ça m'a arrangé aussi que j'ai moins d'enfants que d'adultes. Enfin voilà.
Mais vous êtes mariée.
Oui, je suis mariée.
Et vous voulez pas d'enfants?
Et non, je veux pas d'enfants.
Aurélie.
Et le mari veut pas d'enfant non plus.
Ni l'un ni l'autre. On s'est trouvé parfaitement bien.
Vous avez un chien comme ça.
Vous avez un chien, ouais.
On n'a pas de chien non plus.
Une tarentule?
Ah, surtout pas, j'ai tellement peur.
Des enfants et des araignées, ma chère Aurélie. Merci d'avoir été avec nous dans un instant suite de la discussion.
Des bouffes.
RMC, Camille.
Les grandes gueules. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Tous les samedis de 13h à 14h, c'est les courses RMC.
Une heure dédiée aux courses hippiques avec les experts de la Dream Team Sport RMC.
Les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, tous les samedis 13h-14h avec PMU. PMU.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec vos témoignages aussi que l'on attend pour parler de ces établissements sans enfants. Avant de continuer la discussion avec Samy et avec Tony, la roue à faire tourner toute la semaine prochaine. Vous pouvez faire tourner la roue et gagner jusqu'à 20 000 euros. C'est reparti pour un tour gagnant j'espère. Pour ça, dès que vous entendez l'alerte roue, vous envoyez roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732-16, R-O-U-E. Et toute la semaine prochaine, la roue tournera pour gagner jusqu'à 20 000 euros. Vous avez 5 minutes dès que vous entendez l'alerte. C'est le sprint de l'inscription. On revient à notre discussion sur les établissements sans enfants. C'est Samy donc, qui est avec nous. Bonjour Samy.
Bonjour, bonjour.
Vous avez des enfants?
Oui. Combien? Deux, un de 17 et puis une de 7 ans.
Qu'est-ce que vous pensez de ces établissements alors qui aujourd'hui se vantent de ne plus recevoir les enfants?
Ben, franchement, je trouve que ça fait un peu peur. C'est un petit peu affolant. Ça montre un petit peu l'état de notre société sclérosée. C'est pas propre à la France. Hein, c'est un peu propre à toutes les économies des pays développés où finalement on en fait plus pour ceux qui ont un pouvoir d'achat plus important, c'est-à-dire les personnes seniors plus. Alors que dans les pays en voie de développement, c'est un peu tout le contraire. Oui. Mais bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Mais ce que je trouve inquiétant, c'est que on est dans une société où finalement, on sépare de plus en plus les gens. Donc on va faire une société pour les célibataires, une société pour les petits, une société pour les grands, une société pour les noirs, une société pour les arabes, une société pour les gros. Et où finalement, bientôt, ça sera un monde où on n'aura plus le droit de parler, où on n'aura plus le droit de manger, où, enfin, moi, je comprends pas. Moi, je vais dans un restaurant, moi, j'entends des mômes brailler. Bah, c'est la vie, quoi. Enfin, je comprends pas qu'on puisse être gêné par ça. Bah, on a qu'à directement se foutre entre quatre planches. Et puis là, au moins, c'est sûr, on sera tranquille et on n'aura pas de bruit. Enfin, moi, je trouve que ça va quand même vachement loin, ce genre de choses. Je comprends même pas qu'on en arrive.
Mais, par exemple,
à ce genre d'extrémité.
Quand vous allez au restaurant avec vos enfants, parce que quand j'entends des mômes brailler, je me dis c'est la vie. Quand on entend des mômes brailler au restaurant, une fois ça peut aller, deux fois ça peut aller. Après, ça devient gênant quand même, parce que il y a aussi un savoir-vivre, il y a aussi respecter celui qui est à côté de vous. Donc, j'imagine que vous, vos enfants, quand vous allez au restaurant, ils ne cavalent pas partout, ils se mettent pas à brailler ou à hurler.
Bien sûr que non. Mais alors, c'est une question de savoir-vivre. Je pense qu'on est tous plus ou moins des gens de bon sens. Il y a toujours des excessifs. Après, il y a restaurant et restaurant. Si vous allez dans un kebab, c'est pas la même chose que dans un restaurant. Donc après, enfin, vous trouverez pas forcément les mêmes personnes en fonction des endroits où vous allez. Moi, je sais pas. Est-ce qu'il y a 30 ans, vous vous seriez posé ce genre de questions?
Non.
Mais je pense que vous avez raison, Samy. C'est une dérive de la société. C'est le séparatisme à tous les étages. On a fait une loi contre le séparatisme. Ouais. On aurait peut-être pu inclure cela. Vous avez raison. Mais c'est aussi en plus une société qui ne veut plus d'enfants, puisque on fait de moins en moins d'enfants. Et pas seulement en France, hein, dans tous les pays dits riches, il y a une baisse de la natalité. Et donc ça s'accompagne aussi de ça. Hein.
Mais il y a une défiance sur l'avenir aussi. C'est pour ça que.
Moi, je pense que les gens sont égoïstes. Mais
Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Japon, je sais plus, j'avais lu une étude là-dessus, dans à peu près, je sais plus, c'est entre 8 à 10 siècles, on a calculé la naissance du dernier habitant du Japon. Tellement les chiffres, la démographie de ce pays est alarmante. Enfin, je sais pas. On a des messages alarmistes de partout sur. Moi, j'ai du mal avec ça. Alors peut-être parce qu'aussi j'ai des enfants et j'ai pas envie de leur transmettre.
Ça va pas s'arranger parce que moins il y aura d'enfants, plus les vieux seront majoritaires puisqu'on vieillit de plus en plus.
D'ailleurs, les plus de 65 ans.
Tu imagines le resto interdit aux vieux là.
Les plus de 65 ans vont être plus nombreux que les moins de 25 ans. Moi, je trouve déjà que la France est un pays où on soigne plus les vieux que les jeunes. Par exemple, notre président actuel a été quand même depuis 7 ans beaucoup plus généreux avec les seniors qu'avec les jeunes. Et ça va s'accentuer, c'est-à-dire qu'on aura on aura une société qui ne voudra plus de la jeunesse.
Et si on proposait la même chose pour les personnes âgées, vous allez voir le tollé que ça ferait.
Oui, mais bien sûr. Mais ça passerait pas, puisqu'on est dans un pays vieillissant.
Pendant le Covid, c'est pas passé. Hein.
Voilà, donc c'est ça. Donc finalement, c'est à l'image de notre pays.
On a refusé
de confiner les
personnes à risque.
Voilà. Et on a confiné nos enfants. Faut pas s'étonner, on va dans le sens. Voilà, on va dans le sens du courant entre guillemets de pas idéologique, mais de la façon de penser assez majoritaire qui se dessine dans notre pays.
Alors, Samy, vous savez quoi ? Je vous propose de rester avec nous quelques minutes. Parce qu'on a Tony qui est là. Bonjour Tony.
Bonjour.
Tony de la Sarthe. Et vous mariez au mois d'août, je crois, c'est ça ?
Oui.
Et vous avez dit, pas d'enfant au mariage.
Ah, on a mis autrement, on a mis les bambins ne sont pas acceptés.
Waouh. Bah, ça fait comme le...
Alors expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ?
C'est précis. Pourquoi ? Parce que on en vit à notre âge, à 49 ans, 50 ans pour ma future femme. De faire la fête pour notre mariage entre adultes. Et excusez-moi l'expression, de pas se faire chier avec les gamins des autres.
Mais c'est pas vous qui vous en occupez. Ça, je comprends pas.
C'est là le problème. Et je suis tout à fait d'accord avec Samy tout à l'heure quand il disait qu'il allait au restaurant et qu'on tente brailler des gamins, etc. C'est pas la faute des gamins, c'est de la faute des parents. On revient toujours au même. Comment ils sont élevés. Parce qu'on est partisan pour notre mariage de pas de bambins, mais on est partisan aussi, quand on part en voyage, de prendre des adultes only. Pourquoi ? Pour être tranquille. Parce que, en fin de compte, on se retrouve avec des gamins qui braillent, qui foutent le bordel. Et en fin de compte, quand on est en vacances ou dans un moment comme notre futur mariage, on n'a pas envie de s'emmerder avec ça.
Vous voulez de la tranquillité, gros, quoi. C'est ça, profiter sans avoir de soucis.
Voilà. Oui, parce qu'à mon mariage, je peux très bien prendre une nounou qui va s'occuper des petits. Mais ça peut partir en live tout de suite. Et qui est-ce qui va s'en occuper ? C'est le futur ou la future mariée.
Samy, ça vous comprenez ce que dit Tony, Samy, ou pas ?
Il y a la réponse dans la question. C'est-à-dire, effectivement... C'est ce qu'on fait avec ses enfants. Après, c'est, je vous dis, c'est une question de bon sens. Moi, vous savez, j'aime bien voyager. J'ai visité une dizaine de pays avec mes enfants au cours des dernières années, dans différents types d'endroits. Et ça s'est toujours bien passé. On m'a jamais reproché que j'emmerdais le monde avec mes gosses. Comment ?
Quels sont les pays les plus accueillants avec les enfants ?
Bah, généralement. Alors, en Espagne, dans les pays d'Europe du Sud, généralement, ils aiment plutôt bien les enfants. Ouais. Après, c'est sûr que. Après, moi, j'ai déjà été au Canada avec des gamins. C'est plutôt aussi bien passé. Il n'y a pas de règles. Après, effectivement, ça dépend du comportement des uns et des autres. Mais il ne faut pas non plus dresser un tableau noir ou faire en sorte que. C'est pas pour deux gamins braillards, 98% vont payer pour les restes, quoi. Enfin,
ce qui est étonnant avec le mariage de Tony, je vous souhaite plein de bonheur, que Tony refuse d'inviter des parents, invite des parents qui ne savent pas s'occuper de leur môme.
Oui.
Par contre, il n'invite pas les mômes, mais les parents qui ne savent pas s'en occuper, ça, il veut bien les inviter.
Ouais, ça, je vais peut-être mieux les gérer. Mais les parents qui s'occupent mal de leurs mômes, quand on leur a dit, on les a prévenus, et j'ai eu aucun retour ni aucun refus, me disant, écoute, on ne viendra pas à votre mariage. Parce que
ça les arrange peut-être aussi, je ne sais pas.
Ils sont occupés aussi de leur côté à avoir une nounou, une garde avec les grands-parents, quoi que ce soit. Et je suis tout à fait d'accord avec Samy, 98% vont payer pour 2%.
Non, mais c'est vrai que pour les mariages, on peut limiter le nombre d'enfants, parce qu'effectivement, après, ça devient
c'est un peu la. Et puis, c'est surtout que ça se termine tard. Après, t'as les gamins qui dorment sur les chaises. Il y en a, ils en peuvent plus. Tu vois, ils voient tout le monde courir, ils se mettent à courir eux aussi. Ils voient papa qui tombe parce qu'il vomit. Ils voient tonton qui essaie de courir après la voisine.
On se plaint que nos gamins passent leur vie sur leurs écrans.
Je suis assez d'accord avec ça.
Ils passent leur vie sur leurs écrans. Par contre, on veut leur interdire tout. On veut leur interdire de effectivement s'endormir sur une chaise.
Mais on leur interdit tout. Il faut plus qu'ils descendent en bas de chez eux parce que c'est dangereux.
Allez-y,
Tony.
Bah non, c'est pas cette société.
Ça a été super bien perçu par nos amis qui ont des enfants en bas âge.
Oui, bien sûr. Qui ont dit chouette.
Non, mais après c'est différent. Quand tes parents, tu te dis, moi, je vais pas prendre mon enfant, comme ça, je pourrais me coucher tard, je pourrais me lever tard. Oui, mais c'est pas la même chose.
Tony, enfant, vous avez été invité à des mariages quand vous étiez enfant ?
Ah oui, puis moi, j'étais même un enfant terrible.
Voilà.
Et alors ?
On a la réponse, Tony. On a compris. Vengeance.
Non, il y a pas de vengeance du tout. C'est une histoire de tranquillité. Et aujourd'hui, j'en termine.
À quel point j'ai emmerdé les autres ?
Exactement, mais je les emmerde toujours.
Merci, Tony, d'avoir été dans les GG. Tous nos vœux de bonheur futur. Merci, Samy, d'avoir été avec nous aussi. Bonne journée, Samy, dans le Val d'Oise. Tony, du côté de la Sarthe, et on va aller dans l'Orne retrouver Benjamin. Bonjour, Benjamin.
Ouais, salut les GG.
Où est-ce que vous êtes dans l'Orne, Benjamin ?
Je suis Flers, à côté de Flers.
à côté de Flers.
Je connais très très bien.
Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Benjamin. C'est-à-dire que vous êtes à côté, pas très loin du cheval de notre productrice Anaïs Sainz.
Bah, ça ne m'étonne pas. C'est
Il vit vers chez vous.
Oui, vous pouvez aller caresser Chipou.
Il s'appelle Chipou.
Il y en a beaucoup des chevaux dans
oui,
dans
mais le c'est le plus beau, c'est le plus beau des Chipou.
Et puis Benjamin, vous avez eu du flair.
Et vous le reconnaîtrez facilement, il est coiffé comme Anaïs.
D'accord.
Donc, allez-y Benjamin. Alors, que pensez-vous de ces lieux sans enfants?
Non, mais à un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Profitons avec les enfants.
Bah oui.
Je sais plus qui disait qu'effectivement, on se plaint que les enfants, ils font plus rien, qu'ils ont plus le droit de sortir, etc. Stéphane, et alors des fois je suis pas forcément d'accord avec lui, mais là pour le coup je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'à un moment donné, alors déjà juste se poser la question, est-ce que les gens qui ouvrent ce genre d'établissement ont été enfants déjà? Est-ce que eux ils sont restés à la maison pendant que les parents allaient profiter? Et deuxièmement, comment on peut appeler des réunions de famille si on n'est pas en famille?
Oui, je suis assez d'accord. Parce que le mariage, c'est effectivement avant tout une soirée de famille, ouais.
Les cousinades, etc.
Bah c'est ça. On se plaint que la famille, l'institution famille, comme on l'appelle, est en crise. Mais si on se retrouve avec des lieux qui vont être réservés aux parents, avec les soirées mythiques et tout ça. Enfin, moi, j'en peux plus, quoi.
Et ça veut dire que le réarmement démographique voulu par notre président, il est mal barré, hein.
Mais Benjamin,
ce que je trouve, tu fais pas des enfants en présence d'enfants.
Benjamin, moi, ce que je trouve ignoble, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que derrière tout ça, en 2024, on entend « Oh non, les gamins, c'est trop chiant, quoi. »
Ouais,
c'est horrible.
Oui, non, tout à fait.
C'est horrible.
C'est égoïste.
Je vais vous dire un truc. Pas plus tard que le week-end dernier, à côté de chez moi, il y avait un festival d'art de rue, d'activité, etc., qui se déroulait sur le week-end. C'était des activités qui étaient ouvertes à tout le monde, notamment aux enfants, etc. Et le soir, ça se finissait avec un concert, c'était les Fatal Picard. Moi, j'ai des enfants de 10 et 7 ans. J'ai profité du week-end avec eux sur les activités. On a fait du troll ball, on a fait de l'escalade, etc. C'était génial, il y avait des gamins partout, ça pleurait, ça criait, ça rigolait. Et le soir, je suis allé avec ma compagne au concert, sans mes enfants, donc on avait pris une babysitter. Et là, j'ai vu qu'il y avait des enfants du même âge, hein, de la même classe que mes gamins, et j'ai regretté de ne pas les avoir emmenés, en fait.
Ah oui, je comprends.
Parce qu'ils se sont éclatés.
Ils se sont amusés. Benjamin, vous aussi restez avec nous pour écouter Laurent qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Et vous êtes plutôt pour qu'il y ait des endroits sans enfants?
Ah ben oui, comme j'ai dit à votre collaborateur, moi je suis revenu de vacances il y a un mois, et le seul truc qui était important pour moi, c'était adulte only, quoi. Parce que c'est...
Vous êtes dans des hôtels sans enfants?
Oui, il y avait un côté famille et puis un côté adulte only.
Pourquoi?
Et qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence?
Le calme surtout. Je pars en vacances, j'ai pas envie qu'il y ait des gamins qui sautent dans la piscine à longueur de journée. Je respecte, hein, c'est très bien. Moi, j'ai eu deux filles qui ont fait tout ce qu'elles voulaient aussi quand elles étaient petites, mais arrivé à un certain âge, moi, j'ai envie de tranquillité.
Et moi, j'ai toujours pensé que les trucs adultes en lit, c'était pour faire des rencontres.
Non, j'étais avec ma compagne.
Ah bon, d'accord.
Avec ma compagne. Donc,
vous, c'est juste, vous voulez, pour vos vacances, votre moment de calme.
Ouais, voilà. Et je pars en général en dehors des vacances scolaires pour éviter
les familles. Ça, Benjamin,
au final, vous n'avez pas d'enfants.
Vous comprenez ça, Benjamin, alors?
Ah oui, tout à fait. Mais au contraire, si on pousse le débat, c'est partir sur les périodes scolaires où on va avoir des trains à la SNCF où ils vont réserver des wagons sans enfants. Ça, je trouve ça inadmissible.
Ah, enfin, vous pourriez le faire, Laurent, ça?
Ah oui. Non, j'aime beaucoup les enfants, mais j'aime être tranquille. Quand vous rentrez dans un avion et que vous voyez deux gamins, vous dites, mais vous croisez les doigts pour pas être à côté, quoi. Alors, soit les parents, ils sont cool, et puis les gamins, ils sont bien élevés, et puis ils bronchent pas. Mais si vous tombez sur deux furies, si vous avez 5 heures de vol, c'est compliqué, quoi.
C'est là toute la différence. C'est que,
allez-y, Benjamin. Vous voulez ajouter quelque chose?
Je suis d'accord, mais après, il y a aussi, donc, effectivement, on va en toucher à tout ce qui est de l'éducation parentale, etc. Mais on va imaginer aussi.
Ils se comportent très mal dans les avions, dans les trains, excusez-moi. Là, on focalise sur les enfants. Moi, je vous racontais des tonnes d'histoires où les adultes qui sont au téléphone en première et qui parlent en visio.
c'est d'accord.
Bah, ça va, quoi. Il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes.
Benjamin, Laurent, merci d'avoir été dans les GG.
Merci à vous deux.
Benjamin, bonne journée dans l'ordre. Bonne journée du côté de la Haute-Savoie, mon cher Laurent. Merci de vos participations, de vos témoignages en toute franchise. Alors, mariage, restaurant, hôtel sans enfants,
divorce ou pas divorce ?
Discriminant, yes or no ? Oui, oui, non, ah, alors discriminant, oui, mais 51,7, non 48,4.
C'est partagé, hein.
Ouais,
c'est partagé,
ouais. Très partagé. Donc, il y a quand même une tendance aujourd'hui à vouloir de la tranquillité. Ouais,
on va dire ça comme ça. Mais on va être dans une société sans enfants.
Un nouveau sujet de discussion maintenant, ouais, avec.
Ça sera la fin.
Avec la GG.
La fin de notre civilisation, Antoine Dier.
Exactement.
Avec les grandes gueules. La barquette de tomates cerises à 0,99 centimes d'euro. On achète, oui ou non ? Parce que les agriculteurs français, nos paysans, ils l'ont dans le pif, la barquette à 0,99.
Les écolos l'achètent.
Vous l'achetez, oui ou non ? 32-16 pour venir en parler avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Tous les samedis et dimanches, de 6h30 à 9h30, c'est la matinale week-end sur RMC. L'info, le sport, toutes les demi-heures, des invités au plus près de l'actu, mieux manger avec Perico Legas et vous au 32-16. La matinale week-end, c'est tout à l'heure des 6h30 sur RMC.
La matinale week-end sur RMC avec l'imprimante Realipix Mini P2 d'Agfa Photo. Imprimante au format de poche qui imprime instantanément les photos de votre smartphone.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On a un quart d'heure de discussion à propos des barquettes de tomates cerises.
On a encore 12 discussions avant midi.
Allez, go.
RMC, les grandes gueules.
Oui, parce que les tomates cerises à 99 centimes d'euros la barquette dans les rayons des grandes surfaces, c'est de plus en plus insupportable pour les producteurs français. Donc du coup, ils vont régulièrement faire ce qu'ils appellent leur opération commando dans les grandes surfaces. Et là, c'était encore le cas. Écoutez, ce producteur de tomates en Bretagne qui parle de la grande distribution parce qu'il les pointe du doigt.
On les voit très souvent dans les médias nous expliquer qu'ils sont là pour la souveraineté alimentaire, pour défendre les producteurs, pour défendre les consommateurs, mais au final on s'aperçoit que y a beaucoup de tomates marocaines dans les magasins, et ces tomates marocaines, on sait qu'ils font des marges énormes dessus.
Voilà, et on ne va pas citer effectivement, je crois que c'est la marque Azzoura qui est un gros producteur de tomates du Maroc, et ce sont ces petites tomates produites à bas coût qui arrivent dans les rayons des grandes surfaces. Oui, alors, vous les achetez ou pas ? Oui ou non ?
Parce que ça, l'agriculteur dit oui, le consommateur. Mais non, mais le consommateur, il achète. C'est toujours pareil. On est dans l'offre, la loi du marché, l'offre et la demande. Ces petites tomates à bas coût sont plébiscitées par les consommateurs. Alors, sont-elles moins bonnes ? Bon, après,
elles ont du goût.
Mais faut ça. Mais bon, c'est le consommateur, malheureusement, qui décide, qui fait ce choix-là. Donc c'est tout compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois on veut des prix bas parce qu'il y a l'inflation, parce que la vie est chère, parce que les salaires n'augmentent pas, et en même temps on voudrait que les productions françaises soient privilégiées. Mais les productions françaises sont plus chères. Donc comment fait-on ? Alors il y a les marges, il y a des discussions. C'était tout ce qu'on a pu raconter pendant la crise agricole, mais on voit bien que rien n'a été réglé, puisque le consommateur, il va dans son supermarché, s'il voit des tomates à 0,99, eh bien il va dire, je vais acheter, j'ai pas les moyens d'acheter plus.
Michael, bonjour.
Oui, bonjour.
Commerçant primeur, qu'est-ce que vous en dites de ces barquettes à 99 centimes alors ?
Ah ben c'est un vaste problème, mais ça fait des années que ça existe, c'est pas nouveau. Et moi, nous on est primeur, mais mon père est agriculteur, on a produit de la tomate cerise aussi pendant une dizaine d'années. Et moi, je pense qu'en fait, la problématique, c'est qu'on paye aujourd'hui les erreurs qu'on a fait il y a une vingtaine d'années, quand on a ouvert vraiment les frontières, enfin, le marché à l'international. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un tel décalage entre les coûts de production en France et ce qui se pratique ailleurs, et notamment au niveau aussi phytosanitaire. Vous en avez beaucoup parlé, vous, aux grandes gueules, sur les produits et les agriculteurs. Donc en fait, pour moi, comme je suis primeur, je suis confronté aussi à la clientèle, au pouvoir d'achat qui est pas ouf pour les gens. Donc c'est vrai que voilà, c'est une problématique. D'un côté, il y en a qui peuvent pas se payer peut-être ben, des bonnes tomates cerises de pays. Bon, nous on est en Provence, mais enfin, que ce soit Bretagne ou voilà, ou, sur le secteur où c'est produit.
Et, c'est inatteignable le 0,99. On est d'accord.
Oui, non, voilà, nous on peut pas. C'est-à-dire, nous en France, on peut pas produire à ce prix-là, c'est impossible. Après, il y a, c'est multifactoriel, parce qu'il y a aussi le goût. Bon, on peut reparler. Voilà. Je pense que si notre ami Perico Légas, il le dirait aussi. C'est voilà, c'est pas terrible. C'est des variétés qui sont conçues vraiment que pour l'exportation. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous inondent avec ça, mais c'est pas dit que ils mangent les mêmes. Voilà.
Pourquoi les gens l'achètent?
Parce que voilà, ce prix-là, malheureusement, ben, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas peut-être se permettre d'aller ben, chez le primeur ou voilà ou payer de la tomate de pays.
Votre tomate cerise, elle sera combien chez vous?
Alors nous on les vend au kilo. Déjà c'est différent, mais c'est les marquettes. En plus la grande surface, là où ils sont un peu, ben, je dis pas tordus, je vais pas dire tordus, mais c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup ce truc-là, le 0,99. Ben, en fait c'est une marquette de 250 grammes. Mais si on ramène ça déjà au kilo, ça fait déjà un peu, ça fait 4 euros le kilo. Donc déjà les gens, si on mettait 4 euros le kilo, peut-être qu'ils freineraient déjà un petit peu. C'est vrai qu'ils utilisent tout ce qui est dans leur corps pour pouvoir rendre
donc,
le prix attractif.
Vous faites le kilo, vous êtes à combien, Michael, vous?
Nous, là, on est à 7,50 le kilo, mais on a de la tomate cerise de France. Donc là, nous sommes mangés de la Bretagne.
Où est-ce que vous êtes commerçant primeur, Michael?
Alors nous, on a un magasin sur Pertuis et un autre sur Aix-en-Provence. On est
qui s'appelle comment?
C'est les Halles de Pertuis et les Halles de Palette.
Voilà, comme ça, si vous voulez soutenir la filière française, passez voir Michael et vous lui passez le bonjour des GG. Merci, Michael. Bonne journée à vous.
Bonne journée, merci, au revoir.
Qu'est-ce que vous en pensez alors, les amis, de ces 99 centimes d'euros la barquette alors, Antoine?
Moi, ça peut m'arriver de l'acheter, hein, cette barquette, je le reconnais humblement. Je vais aussi chez mon primeur où j'achète de bonnes tomates en bas de chez moi à Dunkerque. Mais ce qu'on n'a pas évoqué, c'est le côté pratique et le côté marketing de cette barquette. Et on l'a dit durant la crise agricole, pourquoi on ne parvient pas à avoir ces barquettes avec des produits français, avec un beau drapeau, avec marqué, quand vous achetez ça, vous soutenez un agriculteur. Et en fait, au-delà du prix, il y a le côté pratique, il y a le côté j'ai pas le temps de regarder. Faites-nous des barquettes de tomates françaises avec, quand vous achetez ça, c'est un bon achat. Et il n'y a pas de concurrence au plan de la barquette facile à prendre.
Non, mais dans les frigos, quand même, il y en a dans les frigos. Bon, moi, ce que je veux vous dire, moi, je sais que c'est pas français. Mais tu vois le macaron 99 centimes, tu penses aux agriculteurs en même temps, puis tu l'achètes quand même parce que...
C'est pas cher.
Et puis attendez, ça se fait pas qu'avec les petites tomates cerises, hein. C'est avec les radis...
Les fraises...
Plein d'autres fruits et légumes, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est le prix, il faut pas...
Donc t'achètes un prix, quoi, c'est tout.
Ouais, parce que moi qui adore les tomates grappes françaises, je vous cache pas que... Bon, je sais pas si c'est bien de faire ça dans les magasins, mais quand tu vois le prix au kilo, moi je prends pas la grappe entière, hein, j'en prends 3-4 et puis je le mets dans le sac. Attends, ça coûte une fortune.
On peut être déçu du goût même avec des françaises.
Oui, mais moi je mets beaucoup de sel.
Le sujet, c'est le mode de production. Faut de la tomate de pleine terre ou je sais pas quoi. Enfin, pas des trucs sous serre qui ont pas de goût, qui sont tout ronds, on dirait des bis.
Là, en même temps, au Maroc, sous serre.
Voilà, mais c'est. Au Maroc, je sais pas comment ils produisent.
Il y a un peu de soleil au Maroc.
Non, mais je suis d'accord, mais en tout cas, c'est un truc industriel.
Pourquoi les tomates marocaines sont moins bonnes?
Je ne dis pas qu'elles sont moins bonnes. Moi, nos amis marocains, ils sont très bons dans les agrumes.
Oui, je ne suis pas sûr
qu'ils sont très bons dans les agrumes. Après,
je pense que
ce n'est
pas un bon argument, en fait.
Je suis plus partagé parce qu'il faut quand même beaucoup d'eau pour produire de la tomate. Et Maroc n'est pas connu pour avoir de l'eau en abondance.
Mais en même temps, là où tu as du soleil, tu as moins d'eau.
Et ensuite, le déséquilibre financier, il est factuel. Le salaire d'un agriculteur au Maroc, enfin d'un salarié marocain, dans l'agriculture, il est de 270 euros par mois.
C'est ça.
Quand en France, il est à 1460 euros. Bon, voilà, il y a 1200 euros d'écart, sachant que là-bas, il n'y a pas de jour, je crois qu'il y a un jour où tu ne travailles pas, et encore, c'est à la bonne volonté du patron, tu travailles, t'es payé, tu ne travailles pas, t'es pas payé.
C'est plus en finalement. 36% des tomates qui sont consommées en France aujourd'hui sont des tomates marocaines.
Ben oui.
Le Maroc est devenu le premier exportateur mondial de tomates fraîches.
Oui, mais
alors dans ce cas-là, tu mets des droits de douane.
Pour compenser. Tu as raison, parce que j'étais il n'y a pas très longtemps à Marrakech et j'ai discuté effectivement avec la gestion de l'agriculture marocaine. Et c'est vrai que les chaînes, etc., elles ont du mal à pénétrer le Maroc.
Troisième exportateur.
Sur des produits agricoles, parce que dès que ça commence à trop concurrencer l'agriculture marocaine, le roi, il réglemente tout de suite pour protéger l'agriculture marocaine.
Protégeons-nous aussi, c'est à un moment donné.
Ah, oui,
comment
oui,
tu fais, c'est qu'on veut. Justement, dans les restaurants pour la tomate.
Nous, c'est quasiment que du français.
Tu cherches un prix ou pas que.
Non, parce que on cherche. Tu sais, moi, j'ai pas envie d'acheter du chômage. J'ai pas envie d'acheter de la subvention, j'ai pas envie d'acheter de l'impôt supplémentaire pour faire un énième plan pour aider nos agriculteurs. Je crois que l'acte d'achat, c'est d'acheter pour éviter d'aider derrière. Si tu peux acheter mais derrière tu vas te faire parce qu'il va falloir
Pardon Stéphane, culpabiliser l'acheteur l'acheteur il achète aussi en fonction de son porte-monaie. Donc je crois pas, moi je crois que le débat sur le goût n'est pas le bon, parce que il faudra démontrer que la tomate française est toujours meilleure que la tomate marocaine.
Non, ça, c'est vrai, qu'on a perdu.
Et deuxièmement, culpabiliser le consommateur, ça a des limites, parce que le consommateur il fait en fonction de ce qu'il a en poche. Donc la vraie question c'est la régulation du marché. C'est-à-dire que effectivement la mondialisation, il y a plein de points positifs, mais la mondialisation a fait qu'on accepte finalement des produits forcément avec des normes sociales qui ne sont pas les mêmes. Donc forcément, on est sûr de perdre. Nous, dans un pays au contraire, où on est le pays le plus imposé au monde, le plus chargé socialement au monde. Donc c'est-à-dire qu'on veut beaucoup de cotisations, beaucoup de charges, beaucoup d'impôts, et en même temps, on voudrait qu'on soit compétitif avec des pays comme le Maroc.
Avant tout ça,
ça ne peut pas fonctionner.
Le consommateur, comme le distributeur, a une grosse part de responsabilité. Il faut savoir qu'un tiers de la production agricole française part à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas dans les standards, pas en termes de goût. En termes de calibrage, il y a un petit pet
sur
le
fruit,
il
n'est
pas très beau.
Voilà.
Et donc, aujourd'hui, on veut de beaux légumes, bien brillants, dans les étalages des supermarchés, pour que ça brille sous les lampadaires. Et ça, c'est un vrai problème. Quand tu jettes un tiers de ta production.
Oui, mais c'est pareil pour le Maroc aussi.
Oui, mais c'est vrai. Mais en France, si on arrêtait de jeter de la production et qu'on la consomme, on réglerait aussi notre problème agricole.
Alors attends, nous sommes avec Marc. Bonjour Marc.
Bonjour les Gégés.
Bonjour. Et alors, 0,99 centimes la petite barquette plastique tomate marocaine, vous achetez ou pas ?
Bah moi j'achète ça dans la supérette dans mon village. Hein. Moi il y a quelques temps quand je les ai goûtées, j'ai vu le prix, j'ai goûté. Elles étaient bonnes, donc pour l'apéro, j'y reviens, hein, c'est tout. Hein. Elles sont propres, il n'y a rien à jeter.
Vous tuez les agriculteurs français, Marc ?
Non. En plus on consomme l'eau des Marocains en plus. Donc... Non, et j'ai même essayé d'en faire dans le jardin. J'ai du terrain, j'ai essayé d'en faire. Ça me coûte plus cher en eau, moi, qu'en tomate. Ouais. Donc, et même quand vous essayez de replanter les graines et de ça marche pas. Elles poussent qu'une fois. Donc voilà. Donc on les achète.
Vous ne vous sentez pas coupable en achetant 99 centimes ?
Non,
on ne peut pas réduire non plus les agriculteurs.
C'est comme le frontalier en Italie, ou bien il va acheter l'essence de l'autre côté, il va à la Jonquera. Vous le faites le plein, vous achetez vos clopes à la Jonquera, à 26 000, vous revenez. Ça...
Oui, mais moi, autour de moi, à Nice, il y a plein de gens qui vont acheter les légumes, légumes en Italie. Ils vont en Italie parce qu'il y a des circuits courts en Italie.
Très bon.
Et ils sont bien meilleurs que ceux que
c'est moins cher.
C'est moins cher.
Je dois reconnaître que nos amis italiens sur les tomates sont excellents.
Sur les légumes de manière générale.
Quand j'étais en Italie, j'avais demandé au restaurateur, mais qu'est-ce que je peux prendre ? Et Morgan, il fait tomate mozzarella. Je lui dis, mais non, mais tomate mozzarella, on en a. Et après, je me suis senti con parce que j'ai dit, attends, tomate mozzarella à Paris, c'est pas celle que tu trouves en Italie. Elle était exceptionnelle. La tomate, délicieux, c'est un fruit.
Rémi, bonjour Rémi.
Bonjour.
Rémi, qui est vice-président des jeunes agriculteurs. Qu'est-ce que vous faites alors avec cette barquette à 99 centimes alors Rémi ?
Mais écoutez, effectivement, il en faut pour tous les goûts. Maintenant, les gens qui achètent ce genre de produits, j'espère, ne vont pas venir nous donner des leçons sur l'écologie, sur la manière dont on doit travailler, etc. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il suffit que l'origine soit aussi bien marquée, bien visible, que quand on fait l'acte d'achat d'acheter ces produits-là, on en soit conscient. Effectivement, on peut pas blâmer tout le temps le consommateur. On comprend qu'ils ont pas de pouvoir d'achat. Le problème, c'est que nous non plus, on n'a plus de pouvoir d'achat. Et surtout, vous l'avez dit, on croule sous les normes, on croule sous les charges. Donc, si vous voulez, rien qu'au niveau de la main d'œuvre, on est 14 fois plus cher que le Maroc. Donc, rien que là, on est bien obligé de l'amputer. Par contre, on crée de l'emploi, on fait du dynamisme dans les territoires, on entretient les paysages.
Dans ce cas-là, il faut mettre du protectionnisme, un peu plus de protectionnisme. Ce problème, c'est que on veut tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on veut jouer le jeu de la concurrence, mais avec des pays qui, de toute façon, sont plus compétitifs que nous. Mais on voudrait aussi que nos agriculteurs ne meurent pas, parce qu'on en a besoin, c'est vital, notamment pour entretenir tout notre patrimoine, nos campagnes, etc. Donc, en fait, on est sur des trucs contradictoires. Ben, dans ce cas-là, mettons des barrières. On dit, ben, dans ce cas-là, la tomate marocaine, pour venir chez nous, faut payer, quoi.
Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est en pleine production à l'heure actuelle et que vous l'avez dit, il y a beaucoup de gaspillage de part, effectivement, l'éducation à avoir des fruits et légumes qui soient beaux et qui brillent. C'est une première des choses. On jette beaucoup aussi parce qu'on n'a pas les marchés en face. Donc, on veut bien arrêter de produire. Mais dans ce cas-là, on s'arrête où ? Est-ce qu'on produit juste pour une élite ? Et c'est ce qu'on demande aussi au gouvernement, au final, dans les revendications, c'est de savoir la vision à long terme de l'agriculture française. Exactement. Est-ce qu'on doit produire ? Est-ce qu'on doit arrêter complètement de produire ? Et dans ce cas-là, on dépend des importations. Mais on l'a vu pendant le Covid, notamment, que sans agriculture française, ben, je pense qu'il y en a certains qui n'auraient pas mangé à leur faim. Vous savez, moi, je le dis tout le temps, j'ai un morceau de terre, je sais faire avec mes mains, j'ai un élevage, je mangerai toujours demain. Par contre, mon voisin ou ce monsieur, s'il n'y a plus d'agriculteurs, est-ce qu'il va vraiment manger ? Et puis, on parle de l'impact carbone. Faire venir des tomates du Maroc, je pense que le carbone par rapport aux tomates issues de la France, il n'est pas le même non plus.
Vous avez raison.
Donc, c'est un tout.
Donc, en fait, vous dites aux consommateurs, responsabilisez-vous, quoi. Avant d'acheter, pensez bien à ce que vous faites, quoi.
On a tous un iPhone à 1000 euros, pardon. Par contre, on achète des tomates à 1 euro. Ben, mangeons un petit peu moins de tomates. Déjà, mangeons les deux saisons.
Et, les cheveux.
Et elles seront moins chères. Et puis voilà.
Mais Rémi, il faut quand même le dire.
C'est l'éducation qui doit être refaite de la base.
Faut quand même dire une chose. C'est que, on est tous partis au Maroc, à un moment. Et j'aime bien le Maroc, attention, hein, mais moi, ça m'est arrivé de manger des fruits coupés ou des légumes coupés.
Ah, désolé, c'est la roue multicache, les amis. Vous avez 5 minutes pour envoyer roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. La roue va tourner toute la semaine prochaine dans tous les shows d'RMC et vous pourrez gagner jusqu'à 20 000 euros. Allez-y, inscrivez-vous. Maintenant, envoyez roue par SMS au 732-16. Et on se retrouvera en direct pour faire tourner la roue. Merci Rémi d'avoir été avec nous. Merci à vous et bon courage à tous les paysans qui nous écoutent, à tous les agriculteurs.
Tous nos amis.
On a la petite consultation. Alors, la tomate à 99 centimes d'euros, vous achetez, oui ou non ? Attention, résultat final. J'achète direct 57,1%.
Non, mais c'est bien.
Non, jamais 42,9. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, Stéphane.
Non, mais je crois qu'il a raison. Faut pas. Moi, je veux pas responsabiliser ou victimiser les consommateurs qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, bah voilà, il y a pas de débat. Par contre, celui qui a les moyens et le choix, écoute, bah, quand même là.
Ouais, je travaille dans l'alimentaire solidaire. Il y a une boutique qui s'appelle Ma Petite Échoppe qui se trouve en banlieue parisienne. Et on est dans la vie, on dit toujours, ouais, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont pas bio et tout. Et ben, dans cette petite boutique, mon échoppe, il y a du bio, et en fait, tu payes par rapport à ton reste à vivre. Mmh. Et ben, on a constaté que les personnes qui étaient vraiment beaucoup dans la précarité, et ben, allaient vers le bio. Comme quoi, tu vois.
Oui, c'est une question de moyens. Mais c'est une question moyenne, c'est ce que vient de résumer. Bien manger, ça demande de l'argent.
Antoine, vous voulez ajouter quelque chose ?
Bien manger, ça ne coûte pas plus cher, ça me fait penser à une vieille pub, ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais si, ça coûte plus cher.
Si, ça coûte plus cher, mais il faut le dire.
Et donc, est-ce que les gens sont prêts à
mettre... Sur le long terme,
je pense qu'en réalité, il ne faut pas opposer les deux. Il y a la petite tomate pas chère pour l'apéro de tous les jours, et puis de temps en temps, on va chercher une tomate dont on sait qu'elle aura bon goût, qui est plus chère, etc. Donc, pour moi, il y a des occasions, et continuons à permettre aux gens de se nourrir, parce que c'est ça l'enjeu.
Oui, mais sauf que la tomate, tu la vendras moins.
Bah oui, on en vend moins, mais on la vend plus cher français. À d'autres occasions, etc. Voilà.
Allez, dans un instant, on va vous faire écouter le coup de gueule de notre camarade Estelle Denis dans Estelle Midi. Elle en avait assez que soit des people qui portent la flamme. Elle pense que c'est le mépris des sportifs, de tous les sportifs amateurs, les sportifs professionnels qui sont même laissés sur le côté. Parce que ce qu'il faut, c'est faire du buzz avec des people. À tout de suite avec les GG au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC au 32 16. 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 7 32 16. 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec vous. Avant que le débat ne continue, en compagnie de notre camarade Estelle Denis dans Estelle Midi, de midi à 15h. Mais c'est justement d'Estelle dont nous allons parler.
RMC, les grandes gueules.
Elle a fait son petit buzz sur les réseaux sociaux, notre camarade Estelle Denis, parce qu'elle a poussé un coup de gueule contre les porteurs de flammes qui ne sont pas des sportifs. Écoutez-la.
Je vais te dire ce qui me gêne. En fait, ce qui me gêne, c'est que le sport est méprisé. Dans notre pays, on méprise le sport. Le sport n'est pas une spécialité au bac. Quand vous arrivez à un dîner, vous êtes journaliste sportif, vous êtes un peu. Alors ça, c'est sûr que vous êtes moins bien vu que journaliste économique ou politique. Quand vous faites du sport, quand vous êtes bon en sport mais pas bon en maths, on vous méprise. On méprise les profs de sport, etc. Mais là, comme par hasard, quand il s'agit de porter la flamme et de faire sa propre pub sur les réseaux sociaux, parce que excusez-moi, les people qui portent la flamme qu'on n'a jamais vu en survêtement et qui sont là à se glorifier parce qu'ils portent la flamme. Tout ça pour faire leur com personnel, bah moi ça me gêne. Ça me gêne terriblement. Et dans ces cas-là, j'ai pas de problème que les mecs, les people, ils fassent leur com personnel, mais qu'au moins le reste du temps, je veux dire, ils ne crachent pas sur le sport. Le sport, c'est le parent pauvre de l'éducation nationale. Alors que franchement, le sport, c'est énormément de valeur. Et il y a un moment où moi, voilà, moi franchement, je ne comprends pas ce choix.
Et alors, ensuite, elle a repris son souffle, hein, oui. Estelle. Hein,
On l'a vu ce matin, ça va, elle respire de nouveau.
Alors, y a-t-il un scandale des porteurs de flammes?
Déjà, il y a 10 000 porteurs de flammes. On peut se poser la question, pourquoi autant de porteurs de flammes? Il faut les trouver, les 10 000. Si on prenait que des sportifs professionnels et amateurs, je pense qu'on n'arriverait pas à trouver 10 000.
Il y a plus de 10 000 sportifs dans notre pays, quand même, ouais. Olivier. Bah,
non, les licenciés.
Bien sûr. Alors, il faudrait prendre tous les licenciés, mais si tu prends les sportifs qui ont eu des médailles, etc., tu auras du mal à en trouver 10 000. Donc, déjà, il y a un petit souci. Et puis ensuite, il faut préciser une chose, c'est qui choisit? En fait, c'est soit la collectivité qui fait passer la flamme. Comme les collectivités ont payé 180 000 euros, hein. Donc forcément elles ont leur mot à dire. Par exemple, Toulouse a choisi Big Flo et Oli pour porter la flamme.
Il y avait Jules
à Marseille, à Paris, il y aura Charles Gainsbourg et je crois Patrick Bruel également. Bon, à Bordeaux il y aura le cuisinier Thierry Marx. Et puis il y a aussi les sponsors qui ont leur mot à dire. Bah, ils mettent de l'argent. Coca-Cola, etc. On dit d'ailleurs beaucoup que Jules peut-être a plus été choisi par Coca-Cola que Marseille. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, donc on se retrouve avec des people. Et en même temps, on peut aussi comprendre la municipalité. C'est-à-dire que pour faire venir du monde, si tu prends que des gens inconnus, ça va être compliqué. Si tu prends Big Flo et Oli, je suis sûr qu'il y aura un monde dingue. Tous les gamins seront contents de voir leurs artistes préférés. Donc c'est une façon aussi d'attirer le chaland.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Enfin, tu dis prendre des gens connus pour attirer le chaland. Précisément, moi, je pense à un de mes frères qui peut regarder les JO pendant des heures, etc. et qui se fascine pour ce sportif que personne ne connaissait avant et qui explose sur une discipline. Et donc, précisément, pour moi, les JO, c'est le moment où des personnalités se révèlent, existent, etc. Donc, moi, je ne crois pas que les gens s'intéressent au sport pour des personnalités. Et le passage de cette flamme avec les people, les trucs, montre bien la dérive un peu économique, quoi. C'est business spectacle, c'est plus tellement sportif. Et donc moi j'aurais préféré que dans toutes les villes on fasse porter la flamme par les champions cadets de National 8 parce qu'ils ont fait un très beau match, voilà.
Mais il n'y a pas 10 000 people non plus. Il y a des inconnus, des people, des sportifs, mais c'est effectivement, il y a quelques sportifs qui ont été exclus, on les a pas sélectionnés parce qu'on a sans doute privilégié des artistes.
Oui. Et Jules à Marseille, moi ça m'a fait mal. Honnêtement, les images, j'ai trouvé ça ridicule, ça n'avait aucun sens.
La zone.
Alors, moi, pour ma part, bon, ça doit être mon grand âge. La plupart des gens qui sont soi-disant des people, je les découvre au fur et à mesure que je ne les connais même pas. Par contre, Olivier, j'aimerais quand même te... Je suis ravi parce que celui qui va porter à Paris aussi la flamme, c'est Ludovic, tu sais, l'éboueur.
Oui,
mais il faut le dire quand même.
Oui, mais enfin, il n'est pas non plus sportif.
Oui, mais il a une histoire très particulière et moi, je trouve ça bien. Attends, il a vécu la rue, maintenant il...
Est-ce que les Jeux, ça doit servir à
ça? Oui, mais je suis d'accord.
Est-ce que les Jeux Olympiques, ça doit mettre en valeur des gens qui n'ont rien à voir avec le sport?
Non, mais je pense quand même qu'il va y avoir...
C'est la question que pose Estelle.
Moi, d'après mes renseignements, pour les Jeux, il va y avoir de tout.
Mais oui, il y a un peu de tout.
Il y a des athlètes en e-sport. Il y a des athlètes en e-sport.
Oui, aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que s'il y a un peu de tout, et à un moment donné, on ne sait plus trop vraiment quelle est la priorité.
Avant de te donner la parole, c'est Bernard qui veut réagir au 32-16. Bonjour Bernard.
Salut les GG.
Qu'est-ce que vous en dites du coup de gueule d'Estelle alors?
Putain, moi je suis énervé aussi. Mais je suis énervé parce qu'elle a raison en fait. Est-ce que ça étonne quelqu'un que ce ne soit pas que des sportifs qui portent la flamme en France? Mais non, on n'a pas un esprit de sport dans ce pays.
C'est sûr.
Je me rappelle d'une émission, je crois que c'était Quelle Époque, où Florent Manaudou, à l'époque, avait répondu à Léa Salamé, je crois, le président Macron veut que le pays devienne de plus en plus sportif. Il a dit, mais vous vous rendez compte, les infrastructures qu'on a, on est tellement en deçà des pays anglo-saxons. Moi, je vis avec une Anglaise, c'est un truc de fou la différence qu'il y a entre la perception du sport entre la France et l'Angleterre. Je prends l'Angleterre comme exemple. Mais le sport en général, quand on en parle, parce qu'on en pratique, parce qu'on le suit, mais on s'en limite un peu. Si on est supporter de foot, c'est limite.
Parce que la France n'est pas une grande nation sportive. Regardez la façon dont on fait du sport à l'école. Vrai. Moi, ma fille, pardon, je suis désolé, ma fille, elle est en ce moment, elle est en première. Je lui demandais la dernière fois, c'est quoi ton sport? On fait du frisbee.
Non, mais justement.
Je vous promets, on fait du frisbee.
Et ça s'appelle
à un moment donné, tu dis. Mais bien sûr,
c'est un sport.
Oui, bien sûr, c'est un sport, le frisbee.
Non, mais j'ai beaucoup la
raison. Mais tu sais pourquoi ils font du frisbee? Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour faire du sport. Mais oui, c'est pas cher. On va faire du frisbee dans la cour.
Les enfants, on a qu'à les initier à faire de la pétanque, par exemple. La pétanque, c'est le plus grand sport en France. Tout le monde y joue. En vrai, c'est même pas au JO. C'est un scandale, ça aussi.
C'est pas assez de chance.
Alors attendez Bernard, qu'est-ce que tu es d'accord? Est-ce que le coup de gueule de Bernard aussi?
Je suis d'accord avec le coup de gueule de notre ami Estelle.
Estelle et Bernard, bien
Denis,
sûr.
Bernard, bien sûr, ras-le-bol. Enfin, c'est le sport quoi. Enfin, à un moment, faut pas tout mélanger. Il y a 11 000 porteurs de flammes, c'est trop. Et dans ces 11 000,
c'est peut-être le chiffre, c'est trop. 11 000, c'est peut-être trop.
Alors déjà, c'est trop. Après, il y a des incohérences. Je le citais tout à l'heure. Mon confrère Thierry Marx, il va porter la flamme à Bordeaux.
Ça décharge. C'est un judoka.
Pourquoi
Bordeaux? Bordeaux, il y a Philippe Etchebest, c'est un sportif.
Oui. Rugbyman, ouais.
Pas un peu connu, il a fait de la boxe et il continue à faire du sport. Donc pourquoi Bordeaux? C'est quoi le lien avec Bordeaux? Tu vois, à un moment, c'est juste des sponsors, effectivement. C'est Coca-Cola, comme disait notre amie Estelle. C'est les sponsors qui veulent que leurs poulains qui vont parler pendant les JO, à tout prix.
Après, on leur demande aussi de payer une partie de l'ardoise. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On veut pas que l'argent des Français paye intégralement l'addition, et donc on demande aux sponsors de mettre de l'argent et c'est normal que Coca-Cola ou LVMH.
Jonathan, bonjour.
Mais dans ce cas-là, tu prends.
Bonjour.
Elle a eu raison dans son coup de gueule, Estelle.
Oui, alors je passe souvent avec Estelle, je suis pas souvent d'accord avec elle, mais pour une fois, oui, elle a entièrement raison. Les sportifs ont peu de visibilité tout le reste de l'année. Tous ces artistes-là, on les voit à longueur de temps à la télé ou dans les festivals, ça suffit largement. Et là, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux pour ces porteurs de flammes. Et moi, ce qui m'a ulcéré, c'est l'allumage du chaudron par Jules à Marseille. J'ai trouvé d'une hypocrisie sans nom, alors qu'on avait Manaudou juste à côté.
Il a allumé des chaudrons, lui.
C'est ça.
C'est une autre vie.
C'est ça. Mais alors qu'on avait Manaudou juste à côté, multimédaillé, qui lui aurait pu, ou alors même une grande figure de Marseille.
Ah, mais Ayam, quoi.
Papin, ou Boli, ou...
Non, mais Ayam, c'est comme Jules, c'est pas...
Jonathan, voilà, vous devez faire la part belle au sport. Au sport, aux sportifs amateurs, aux licenciés, c'est eux qui doivent faire courir la flamme jusqu'à Paris, quoi, en fait.
Exactement. Même s'il n'y a pas de professionnels, s'il n'y en a pas assez, s'ils n'en trouvent pas assez, ils ont qu'à faire courir les présidents de petits clubs ou d'associations, mais que ça reste dans le
monde. En plus, à Marseille, c'est pas comme si Marseille avait gagné la Champions League, quoi.
Olivier et Alain, vous savez, la petite grand-mère, là, qui soutenait C'est quoi à Marseille, ma, le truc
de
foot, là?
L'OM.
Même moi, bah, c'était vachement beau, quoi. Vous l'avez vu?
Oui.
Bah, oui, moi, non, mais les anonymes, oui, c'est sympathique.
Eh bah.
Et c'est quand même plus sympa, Beckham. Pour les Jeux Olympiques de Londres. Ah, quoi, tu vois, donc si tu veux déjà mettre des pipes.
Bernard et Jonathan, mais, merci d'avoir été dans les GG. Tiens, j'ai un petit message pour toi, Antoine Dirce, écoute. Oh.
Merci la zone.
Ah bah oui, bah, voilà, merci monsieur.
Hein, oui. RMC, les grandes gueules.
Bon week-end et à lundi entre 9h et midi pour discuter, pour débattre avec les GG, avec les grandes gueules. Alors qui sera là? Joël Dagosséry, la coach de vie, Bruno Poncet, le cheminot et syndicaliste, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Et puis nous serons avec Dave. Oui, Dave, il est en concert au Grand Rex à Paris. Dave qui est en train de saluer son public parce que bon, il estime avoir fait sa carrière. Et Dave, il a toujours une sacrée franchise et il sera avec nous dans les GG.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.
Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC Stephen Time, ce soir, 19h-20h30.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes commissaire européen au marché intérieur et vous venez notamment pour fêter une bonne nouvelle tout à l'heure et pour accueillir des patrons à Versailles, puisque vous serez à partir de midi dans ce fameux sommet qui s'appelle Choose France, choisissez la France. Et il y en a beaucoup qui l'ont choisi visiblement, puisque l'annonce a été faite cette nuit. Un millésime de tous les records, dit Emmanuel Macron. 15 milliards d'euros vont donc être investis en France. Des contrats qui seront signés tout au long de la journée avec ces patrons reçus en grande pompe à Versailles. 15 milliards d'euros, ça représente quoi? Est-ce que c'est un effet de loupe? Est-ce que c'est des réalités? Quel genre de réalité? Des usines, des emplois? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Ce sont d'abord effectivement des emplois, des investissements. C'est derrière des emplois. Ce sont des emplois, et c'est très important justement dans ce millésime cette année. Ce sont des emplois majoritairement industriels et ça va complètement dans le cadre de la réindustrialisation de l'Europe. Alors, pourquoi suis-je ici aujourd'hui à Pline de Malherbe?
Oui, parce que vous êtes français, mais vous êtes le commissaire de européen. Tous les Européens, normalement.
Et bien, mon rôle, c'est d'aller en permanence encourager aussi les meilleurs.
Mais vous le faites aussi pour les autres pays?
Ben là, je vais en France parce que la France est le meilleur en Europe en matière d'investissement. C'est donc mon rôle que d'aller précisément accompagner, j'allais dire aussi peut-être un peu célébrer, si vous me permettez l'expression.
Bah 15 milliards, ça se célèbre, j'ai envie de dire.
C'est pour la cinquième année consécutive que la France est le numéro un en Europe en matière d'investissement étranger.
La France est donc, le plus attractif d'Europe. Effectivement, d'Europe. Ça veut dire qu'elle attire le plus de capitaux étrangers. Voilà.
Et donc, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire effectivement que la France sait attirer ses capitaux. C'est très important, encore une fois, pour notre avenir. On le voit cette année pour la transition numérique, avec beaucoup d'investissements dans le quantique, mais aussi évidemment dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, dans aussi la localisation. C'est essentiel, des data centers, des centres de données.
4 milliards d'euros annoncés par Microsoft, notamment, d'investissements en France.
J'ai vu que d'autres allaient le faire également, comme je crois Amazon Web Services. Ça veut dire effectivement que ça y est, enfin, les grands acteurs du numérique viennent installer leurs data centers en Europe, ce qui nous permet, nous, évidemment, de mieux contrôler et protéger les données de nos entreprises et de nos concitoyens.
Vous le disiez d'ailleurs, en Europe, mais plus spécifiquement en France, qu'est-ce qui a fait la différence?
Vous savez, ça fait encore une fois, comme je dis, 5 ans maintenant d'affilée. D'abord, évidemment, c'est le niveau de formation, c'est très important. On a en France, mais aussi en Europe d'une façon générale, 40% de nos concitoyens qui ont achevé des études supérieures. C'est très important, il faut continuer évidemment, il faut laisser personne au bord de la route, mais c'est un atout très important évidemment pour la compétitivité. C'est aussi, il faut le dire, une industrie, une énergie, qui est une énergie décarbonée, massivement décarbonée. décarbonée, la plus décarbonée.
Le nucléaire.
Bien entendu, grâce au nucléaire.
C'est un argument.
Mais un argument majeur, massif. D'abord parce qu'il produit cette énergie décarbonée et on sait qu'on va en avoir besoin massivement pour atteindre nos objectifs de 2050 de décarbonation. Mais c'est aussi une énergie dont les coûts vont baisser. Je rappelle que la France est aussi le premier pays exportateur d'électricité décarbonée. C'est donc un rôle tout à fait privilégié. Il y a aussi évidemment la situation géographique de la France qui est importante, ses infrastructures routières, ferroviaires. Donc tout ça, évidemment, pèse. Et puis une politique, il faut le dire aussi, incitative. C'est très important. Ne soyons plus naïfs. Et on est plus naïfs maintenant au niveau européen. Les Américains procèdent à des subventions massives, on l'a vu, notamment avec l'Inflation Reduction Act. Vous savez, cette fameuse IRA, où ils ont massivement investi.
Ils ont tordu le bras à l'économie d'une manière artificielle.
Ils ont massivement subventionné précisément les industries, notamment les industries. Et on fait pareil, on doit faire aussi, il faut être absolument pragmatique, donc il faut effectivement que nous fassions pareil, et on a fait pareil nous aussi au niveau européen, avec une loi qui s'appelle NetZDA, qui maintenant est déclinée, et dont on commence à voir les résultats, et en particulier en France, dans les batteries, dans l'éolien, dans les panneaux solaires, dans tout ce qui va contribuer précisément à cette décarbonation, et il y a aussi tout ce qui se passe en Chine, où on voit qu'on a du dumping, donc ne soyons pas naïfs, on n'est plus naïfs au niveau européen, et c'est la traduction de cela.
C'est pas seulement nos concurrents, la Chine et les États-Unis, ça devient presque nos adversaires parfois sur ce terrain de jeu de l'économie.
Mais bien entendu, et c'est absolument clair, nous sommes aujourd'hui dans une compétition mondiale qui n'a jamais été aussi féroce. Et on voit bien que pour lutter contre notamment le poids que représentent la Chine ou les États-Unis, seul le niveau européen nous permet d'y répondre. C'est quelque part, vous savez, ce que tous nos concitoyens européens ont compris, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans les élections à venir, il n'y a plus un parti qui dit qu'il faut quitter désormais l'Europe. Je crois qu'enfin, tout le monde a compris que l'Europe ensemble, c'est l'Europe qui protège.
On va revenir sur l'Europe, d'ailleurs, qui protège et qui va même jusqu'à l'Europe de la défense. Vous êtes, je le disais, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, mais vous avez également dans votre portefeuille les questions de la politique industrielle, on vient d'en parler, mais aussi du numérique, de l'audiovisuel, de la défense et de l'espace. Thierry Breton, vous disiez, au fond, ce sont nos concurrents, mais ils sont aussi concurrents entre eux. Quand vous voyez que Joe Biden annonce qu'il va vouloir taxer à 100% les voitures électriques chinoises, est-ce qu'il faut faire la même chose?
Alors, cette annonce qui a été
c'est à la une du journal Les Échos ce matin.
Dans le contexte des élections à venir, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis? Je rappelle que les États-Unis, c'est 15,5 millions de véhicules produits aux États-Unis, et c'est quelques dizaines de milliers importé en Chine. Donc on voit bien que cette annonce, c'est une annonce politique, Pauline de Malherbe. Mmh. Et ceci dit, il ne faut pas être ni dupe ni naïf. Et nous ne le sommes pas au niveau européen, puisque nous avons décidé, du reste, d'ouvrir une enquête sur les véhicules chinois, les véhicules électriques chinois qui viendraient en Europe.
Mais vous avez dit qu'il ne fallait pas être naïf.
Non,
le président américain ne montre pas que nous, on est un peu naïf et que lui, il y va.
On verra ce qu'il va faire, on va voir, parce qu'il y a évidemment derrière tout ça des jeux de rétorsion. Donc il faut toujours être extrêmement attentif à ce type de démarche. Alors vous pouvez le faire quand vous...
Il montre les muscles, quoi.
Ben, ça concerne zéro pour lui. Il n'importe pas de machine, il n'importe quasiment pas de voiture électrique chinoise. Donc on voit bien que c'est un acte politique. Bon, en ce qui nous concerne, c'est pas le cas. On importe des voitures électriques. Donc effectivement, l'enquête a été lancée. Les conclusions vont aboutir, je l'espère, avant l'été, dans les quelques semaines qui viennent. Et il faut s'attendre, effectivement, en tout cas, je ne veux pas anticiper, mais il faut s'attendre à un rééquilibrage parce que il faut de la réciprocité, c'est évident.
Un rééquilibrage, ça veut dire que vous pourriez, alors on comprend bien que vous estimez que Joe Biden va trop loin et qu'il va trop loin aussi parce qu'au fond, s'il n'y a plus de voitures chinoises électriques qui rentrent aux États-Unis, ça ne fera pas une grosse différence. Mais enfin, est-ce que vous vous dites, on peut aller jusqu'à des taxes extrêmes comme ça sur les véhicules chinois?
On va commencer par voir la réalité. L'enquête est en cours.
Pour se protéger.
L'enquête est en cours, elle est bientôt achevée. On va le voir donc. Réponse attendue, encore une fois, dans les semaines qui viennent. On va bien entendu voir ce qui va se passer. Je ne vais pas dévoiler ce qui va se passer, mais on peut s'attendre à un rééquilibrage, on verra bien. Il n'en demeure pas moins que derrière, et c'est là où il faut pouvoir mener, Pauline de Malherbe, des rapports de force désormais. Mm. Un seul pays ne peut pas lutter contre la Chine, c'est une évidence. En revanche, l'Europe, qui est le premier marché intégré au monde. C'est un enjeu majeur et ça nous permet de faire de la balance dans les rapports de force avec la Chine. Et en particulier, parce que vous savez qu'est-ce qui va se passer en particulier lorsque vous augmentez des droits de douane sur tel ou tel type de produit, généralement la partie adverse
va faire monter les douanes sur d'autres produits. Le cognac, le vin ou je ne sais quoi.
Et donc ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir des relations, encore une fois, de rapports de force sur l'ensemble de la chaîne et des chaînes de valeur. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire au niveau européen. Et je le redis, aucun pays au monde, regardez ce qui se passe, j'allais dire tragiquement, en Grande-Bretagne, qui est maintenant désormais laissé pour compte, aucun pays au monde ne peut faire des rapports de force avec des géants que sont la Chine, les États-Unis aussi, si nous ne pesons pas collectivement ce que nous pesons. C'est toute l'ambition, la volonté et la détermination du projet européen collectif à 27, à 450 millions de consommateurs, premier marché intégré.
On sent bien que pour vous, Thierry Breton, c'est aussi le moment de plaider l'Europe. Quand vous entendez que Gabriel Attal dit, à propos de cette campagne européenne, on est à moins d'un mois désormais donc, des élections européennes, il dit, Gabriel Attal, le RN est dehors. Dehors, en dehors de l'Union européenne. Il résume les choses ainsi. Le débat de cette élection, c'est dedans ou en dehors de l'Union européenne à propos du RN.
Mais il a raison. Il a raison, mais vous savez, le Rassemblement national, et j'allais dire les extrêmes, et je les connais bien les extrêmes, notamment les extrêmes au Parlement européen. Ils ont eu pendant des années, et c'est leur ADN, ne l'oublions jamais, la volonté farouche de sortir de l'Union européenne, par tous les moyens. C'était on sort de l'Europe. On sort de Schengen, on sort de l'euro. Et c'était vraiment la ligne politique. Est-ce que vous croyez que cette ligne politique, elle a changé, Apolline de Malherbe ? Absolument pas. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont vu, les extrêmes ? Ils ont vu que désormais, ce n'était plus populaire. Parce que qu'est-ce qu'ont compris nos concitoyens européens ? Regardez avec le Covid, par exemple.